Ben-Hur, chapitre 21, Balthazar chez le cheikh Hilderim. À peine Malouk avait-il quitté Hilderim et Ben-Hur que déjà des serviteurs s'empressaient autour d'eux pour leur enlever leurs sandales poussiéreuses. « Assieds-toi, au nom de Dieu, et repose-toi sous ma tente, » dit le cheikh à son hôte, dans le dialecte en usage sur la place du marché à Jérusalem. Ils prirent place sur un large divan, et tandis qu'une esclave lavait leurs pieds avec de l'eau fraîchement puisée au lac, Hilderim passait ses longs doigts dans sa barbe argentée. « J'espère que tu as faim, » dit-il à son hôte. « Nous avons, nous autres Arabes, un proverbe qui prétend qu'un bon appétit est le gage d'une longue vie. »« Alors, bon cheikh, je vivrai 100 ans, » répondit Ben-Hur. « Je me sens aussi affamé que les loups du désert qui rôdent le soir autour de tes troupeaux. » « Je ne te renverrai pas vide comme un loup, je te donnerai le meilleur de la bergerie !» s'écria Hilderim en frappant dans ses mains, puis il ajouta en se tournant vers un serviteur « Va chercher l'étranger qui est dans la tente réservée à mes hôtes. Dis-lui que je suis revenu accompagné d'un ami et que s'il veut participer à notre repas, il sera suffisant pour rassasier 3 hommes. »« Tu es mon hôte, » dit Hilderim à Ben-Hur, « et bien que tu aies bu de ma cervoise, et que tu sois sur le point de goûter à mon sel, je ne suis pas moins en droit de te poser cette question. Qui es-tu ? » Cheikh Hilderim, répondit Ben-Hur, ta question est naturelle, loin de moi la pensée de m'en offenser, mais dis-moi, je te prie, s'il ne s'est point trouvé de moment dans ta vie où tu aurais commis un crime envers toi-même en répondant à une semblable demande. Oui, par la splendeur de Salomon, il serait parfois aussi lâche de se trahir soi-même que de trahir une tribu. « Je te remercie, bon cheikh, » s'écria Ben-Hur. « Jamais réponse ne t'honorera davantage. Je sais maintenant que ton unique souci est de t'assurer que je suis capable de remplir l'emploi que je te prie de me confier et qu'il t'importe peu de connaître ma pauvre histoire. Je te dirai cependant que je ne suis point romain, comme le nom sous lequel j'ai été présenté pourrait te le faire croire. » Les yeux d'Hilderim jetèrent un éclair. « Je te dirai encore que je suis juif, de la tribu de Juda, » continua Ben-Hur. « Et mieux que cela, cheikh, je suis un Israélite qui a pour haïr Rome des motifs bien plus graves que les tiens. » Hilderim écoutait sans mot dire, et Ben-Hur reprit « Je te jure par l'alliance que le Seigneur a traitée avec mes pères, que si tu me fournis, selon ma requête, le moyen d'accomplir ma vengeance, je t'abandonnerai l'argent et la gloire dus au vainqueur de la course. » Hilderim ouvrit les yeux et se redressa. Une profonde satisfaction se lisait sur son visage. « C'est assez, » s'écria-t-il. « Si le mensonge est à la racine de ta langue, tu auras trompé Salomon lui-même. Je crois tout ce que tu viens de me dire. Mais cela ne m'apprend pas si tu es habile entraîneur. As-tu l'habitude des courses de chars ? Sais-tu te faire comprendre des chevaux? Sais-tu leur communiquer ta volonté? Obéissent-ils à ta voix? Tout cela, mon fils, c'est un don que chacun ne possède pas. J'ai connu un roi qui gouvernait des millions d'hommes, mais n'a jamais obtenu le respect d'un cheval. Comprends-moi bien, je ne parle pas de ces chevaux qui ne sont que des brutes, sans intelligence, esclaves dignes des esclaves qui les conduisent, mais des coursiers nobles, comme les miens, mes camarades, mes amis, mes héros. » Il appela un de ses serviteurs et lui commanda de lui amener ses Arabes. Cet homme ouvrit un rideau qui partageait la tente en deux et cachait une troupe de chevaux. Ils semblaient hésiter comme s'ils n'eussent pas été certains d'être invités. « Venez, » leur dit Hilderim, « pourquoi restez-vous en arrière? Tout ce que je possède n'est-il pas à vous? Venez, vous dis-je » Ils s'approchèrent lentement et l'un d'eux tourna vers Ben-Hur sa tête exquise. Ses yeux de gazelle, ses narines dilatées semblaient dire clairement « Qui donc es-tu ? » Le jeune homme reconnut un des admirables étalons qu'il avait admiré sur le champ de course et lui tendit sa main ouverte à lécher. « Il se trouvera des blasphémateurs pour te dire que les chevaux sont nés dans les pâturages de la Perse !» s'écria Hilderim d'un air indigné. « Ne le crois pas. Dieu donna au premier arabe une plaine sablonneuse, d'où s'élevaient quelques montagnes arides et où se rencontraient çà et là des sources d'eau amère, en lui disant « Voilà ton pays. Le pauvre homme se plaignit au Tout-Puissant qui en eut pitié et lui dit encore « Réjouis-toi, car tu seras deux fois béni d'entre les hommes. » L'arabe l'entendit et, après l'avoir remercié, il se mit à la recherche des bénédictions promises. Il fit d'abord le tour des frontières de son royaume et ne trouva rien. Puis il traça un sentier dans le désert et s'y enfonça toujours plus avant. Enfin, au cœur de cette grande étendue désolée, il trouva une oasis de verdure, belle à voir. Et voici, dans l'oasis paissaient deux troupeaux, l'un de chameaux, l'autre de chevaux. Il les considéra comme le meilleur don de Dieu, ce qu'ils sont réellement, et en prit soin. C'est de cette verte oasis que les chevaux se sont répandus sur toute la surface de la terre. Si tu en doutes, je vais t'en fournir des preuves. » Il fit signe à un esclave d'aller lui chercher les archives de la tribu. Bientôt, six hommes parurent, apportant des coffres en bois de cèdre, renforcés par des cercles de cuivre. Leurs poignets et leurs serrures étaient également de cuivre. « Je n'ai besoin que du coffre qui contient les archives concernant les chevaux. Ouvrez celui-là et emportez les autres. » Ce coffre renfermait une grande quantité de tablettes d'ivoire enfilées à des cercles d'argent. Ces tablettes étant fort minces, chaque cercle en contenait plusieurs centaines. « Je sais, mon fils, » dit Hilderim, « avec quel soin les scribes, assis dans le temple de la Sainte Cité, inscrivent les noms de chaque nouveau-né, afin que tout fils d'Israël puisse remonter jusqu'aux origines de ses ancêtres. Mes pères n'ont pas cru mal faire en vous empruntant cette coutume et en l'étendant à leurs serviteurs muets. Regarde ces tablettes. » Ben-Hur prit un des anneaux et vit que chacune des petites feuilles d'ivoire était couverte de hiéroglyphes arabes tracés avec une pointe de métal rougie au feu. « Peux-tu lire ces caractères, fils d'Israël ?» « Non, il faut que tu me les expliques. Sache donc que chacune de ces tablettes porte le nom d'un poulain pur sang, ayant appartenu à mes pères au cours des siècles, et non seulement le sien, mais encore celui de son père et de sa mère. Prends-les et compte-les si tu peux, et tu sauras jusqu'où remontent les origines des chevaux que voici. Si je suis roi dans le désert, fils d'Israël, tu vois mes ministres, enlève-les-moi, et je serai semblable à un de ces malades que les caravanes déposent au bord des grands chemins afin de les y laisser mourir. Je pourrais te raconter les hauts faits de leurs ancêtres. Il me suffit de te dire que, sur le sable et sous la selle, ils n'ont jamais été dépassés, que jamais personne n'a pu fuir devant eux, mais qu'ils viennent d'être attelés pour la première fois, et que dans ces conditions, je ne suis pas certain de leur succès, à moins qu'ils ne trouvent leur maître. Fils d'Israël, si tu es cet homme-là, je te jure que le jour où tu es arrivé ici aura été un jour heureux pour moi. Parle-moi maintenant de ce que tu sais faire. Je ne voudrais pas, mon bon cheikh, que tu me juges seulement d'après mes paroles. Comme tu le sais, les promesses des hommes trompent souvent. Confie-moi tes quatre étalons demain et laisse-moi les essayer sur un terrain plat. La figure d'Hilderim rayonnait. Il allait parler, mais Ben-Hur lui coupa la parole. « Encore un mot, bon cheikh, » s'écria-t-il. « J'ai appris bien des choses dans les arènes de Rome, sans songer qu'elles me seraient utiles un jour dans une occasion semblable à celle-ci. Je puis t'assurer que tes fils du désert, bien qu'ils possèdent séparément la vitesse de l'aigle et la force du lion, échoueront dans la lutte si je ne parviens pas à leur apprendre à s'enlever ensemble. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui à leur conducteur. Peut-être n'arriverai-je pas à un meilleur résultat, mais si je réussis à les entraîner convenablement, s'ils m'obéissent tous les quatre, comme s'ils n'étaient qu'un seul et même animal, alors, je te le jure, tu auras les cerstès et la couronne et moi ma revanche. Et maintenant, qu'as-tu à me répondre ? Je te dis, fils d'Israël, que j'ai de toi une opinion favorable. Demain matin, tu auras mes chevaux pour les essayer. » À ce moment, on entendit du bruit à l'entrée principale de la tente. « Ah ! s'écria le cheikh. « Le souper est prêt, et voici mon ami Balthazar qui arrive. Quant à vous, ajouta-t-il en se tournant vers les domestiques, emportez ce coffre et faites rentrer mes bijoux dans leur appartement. » Balthazar, appuyé sur un bâton et sur le bras d'un serviteur, s'avançait à pas lents vers le divan. Hilderim et Ben-Hur s'étaient levés pour le recevoir, et le cheikh s'inclina en lui adressant respectueusement quelques paroles de bienvenue auxquelles l'Égyptien répondit « Que la paix et la bénédiction du Dieu d'amour et de vérité soient avec toi. » Ces manières dignes L'onction de ses paroles, son expression paisible et cordiale, frappèrent Ben-Hur, qui se sentit pénétré de respect pour l'étranger. « Voilà celui qui rompra le pain avec nous, ô Balthazar !» dit le cheikh en posant la main sur l'épaule de Ben-Hur. L'Égyptien leva sur le jeune homme un regard exprimant la surprise et le doute. Et le cheikh continua. « Je lui ai permis d'essayer demain mes chevaux. Si tout va bien, il les conduira au cirque. » Les yeux de Balthazar ne quittaient pas le visage du jeune homme. Cette insistance semblait étrange au cheikh. Aussi crut-il devoir lui fournir de plus amples explications. « Il est arrivé chez moi bien recommandé, lui dit-il. Il est connu comme le fils d'Arius, un noble romain, mais... » Ici il hésita un instant. « Mais il assure qu'il est juif, de la tribu de Juda, et par la splendeur de Dieu, je te déclare que je crois à ses paroles. « Aujourd'hui même, ô le plus généreux des cheikhs, s'écria Balthazar, ma vie s'est trouvée en péril. Je l'aurais perdue si un jeune homme ressemblant fort à celui-là, si ce n'est lui-même, n'était intervenu alors que chacun s'enfuyait. « Parle !» ajouta-t-il en se tournant vers Ben-Hur. « Es-tu celui qui m'a sauvé la vie ?»« Ce serait trop dire, répondit Ben-Hur avec déférence. « La vérité est que j'ai arrêté les chevaux d'un insolent Romain au moment où ils allaient tomber sur ton chameau près de la fontaine de Castalia. Ta fille m'a laissé la coupe que voici. » Le visage de Balthazar s'anima lorsqu'il vit la coupe que le jeune homme lui montrait. « C'est le Seigneur qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre, dit-il d'une voix émue, en tendant vers lui sa main tremblante, et en cet instant encore, c'est lui qui t'envoie vers moi. Je t'en remercie. Et toi, loue-le également, car j'aurai une grande récompense à t'offrir de sa part. Garde cette coupe, elle t'appartient. Pourquoi, demanda le cheikh à Ben-Hur, lorsque Balthazar eut fait le récit de ce qui s'était passé, pourquoi ne m'en avais-tu rien dit, mon fils? Quelle meilleure recommandation aurais-tu pu m'apporter? Ne suis-je pas arabe, cheikh d'une tribu, et cet homme-là n'est-il pas mon hôte? Le service que tu lui as rendu ne m'a-t-il pas été rendu à moi-même? Où irais-tu en chercher la récompense, si ce n'est ici, et quelle main te la remettrait, si ce n'est la mienne? Épargne-moi, bon cheikh, je te prie, je ne suis pas venu chercher une récompense, petite ou grande. J'aurais secouru le plus humble de tes serviteurs, comme j'ai secouru cet homme excellent. Mais il est mon ami, mon hôte, et non point mon serviteur, ne vois-tu pas la différence que cela fait? Ah, Balthazar, je te le répète encore, que ce jeune homme n'est pas romain, s'écria le cheikh. Puis il se tourna vers la table, haute tout au plus d'un pied, sur laquelle on achevait de disposer le souper. Pendant ce temps, Balthazar interrogeait Ben-Hur. « Comment le cheikh disait-il que je devais t'appeler ?»« Arius, le fils d'Arius. Cependant, tu n'es pas romain. Tous ceux de ma parenté étaient juifs. »« Étaient, dis-tu, sont-ils donc morts ?»« Venez, le souper est prêt, » dit le cheikh. Ben-Hur, soulagé de ne point avoir à répondre à cette question, offrit son bras à Balthazar pour le conduire à la table autour de laquelle ils s'assirent à l'orientale sur trois tapis. Après qu'ils se furent lavé les mains, Hilderim fit un signe aux serviteurs et la voix de l'Égyptien s'éleva, vibrante et pleine d'émotion, pour cette même prière que jadis au désert, Gaspard le Grec, Melchior l'Hindou et lui-même avaient prononcé en même temps, chacun d'eux dans sa propre langue. Père de tout ce qui vit, Dieu, tout ce que nous avons vient de toi. Reçois nos louanges et bénis-nous afin que nous puissions continuer à faire ta volonté. Ils avaient faim, et pendant un moment, la table chargée des mets les plus appréciés des Orientaux, des gâteaux de fine farine, des légumes, des viandes, du lait, du miel, du beurre, absorba leur attention. Mais quand ils eurent terminé leur repas, ils se sentirent plus disposés à causer et écouter. Le cheikh fit bientôt apporter quatre grands chandeliers de cuivre. Ces chandeliers avaient quatre branches et chacune d'elles supportait une lampe d'argent allumée et une coupe contenant une provision d'huile d'olive. Les trois hommes reprirent leur conversation en cette langue syriaque familière à tous les peuples de l'Orient. L'Égyptien, sollicité par le cheikh, raconta sa rencontre dans le désert avec le Grec et l'Hindou. Il pensait, comme Hilderim, qu'il y avait eu au mois de décembre 27 ans qu'ils étaient arrivés à la porte de sa tente, fuyant devant Hérode, et lui avait demandé de les cacher. Chacun lui prêtait une attention intense. Les domestiques eux-mêmes interrompaient leur service pour ne pas perdre les détails de son récit. Ben-Hur l'écoutait comme un homme qui entend parler d'un événement d'une importance immense pour l'humanité tout entière, mais surtout pour son peuple d'Israël, et, lentement, une idée qui devait changer le cours de sa vie s'emparait de lui. Cette histoire n'était pas nouvelle pour Hilderim. Il l'avait entendue raconter aux trois mages et n'avait point hésité à les recueillir chez lui, bien qu'il fût dangereux d'aider un fugitif à échapper à la colère d'Hérode. Sa foi, dès lors, était restée la même. Mais il était arabe et ne pouvait s'intéresser au récit de Balthazar au même degré qu'un Israélite auquel, dès le berceau, on avait parlé du Messie. Dans sa jeunesse, il avait appris tout ce que l'on savait de cet être, à la fois l'espoir, la terreur et la gloire du peuple élu. Du premier au dernier, les prophètes y faisaient allusion. Sa venue formait le thème, les dissertations sans fin des rabbins dans le temple, au cours du jeûne et au cours de fêtes, en public et en particulier, et tous les fils d'Abraham, où que le sort les eût jetés, attendaient ce Messie promis. Aussi, les paroles de Balthazar réveillaient-elles chez Ben-Hur une émotion profonde. Son cœur battait plus vite, et bientôt, il ne douta plus que l'enfant, si miraculeusement découvert par les mages, ne fût véritablement le Messie. Mais comment le peuple d'Israël restait-il indifférent à cette révélation? Comment se faisait-il qu'il n'en eût jusqu'alors jamais entendu parler? Et maintenant, où donc se trouvait l'enfant? En quoi consistait sa mission? Telles étaient les questions qu'il posait à Balthazar en s'excusant d'oser ainsi l'interrompre. « Que ne puis-je te répondre ? » s'écria Balthazar. « Si je savais où le trouver, je me rendrais auprès de lui sans perdre un instant. Rien ne m'arrêterait. »